France Inter, il est 7h.
France Inter, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 21 juin. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la fête de la musique avec un engouement qui ne se dément pas depuis 37 ans. Amateurs, professionnels célébreront ce soir toutes les musiques et à 7h50, ce sont Jeanne Adède et Clara Luciani qui seront au micro d'Ali Badou. Elles seront ce soir sur France Inter et sur la scène de l'Olympia. On voit ça, Agnès, après les autres.
La guerre évitée de justesse entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a donné hier le feu vert à des frappes ciblées avant de se raviser. Emmanuel Macron lance un appel au calme. L'échec des discussions à Bruxelles pour les postes clés de l'Union. Une nouvelle réunion est prévue le 30 juin. Travailler plus de 10 heures par jour augmente le risque d'AVC. Une opération coup de poing hier soir à Paris pour dénoncer l'inertie du gouvernement dans la lutte contre les violences conjugales. Et puis une très belle affiche pour les Bleus en 8e de finale de la Coupe du monde féminine de foot. Ce sera France-Brésil, ah bah oui, dimanche.
Et à 8h20, une lecture décapante du phénomène des fake news et de la panique qui l'accompagne. Dominique Cardon, sociologue, directeur du Media Lab de Sciences Po et l'invité du grand entretien de la matinale, intervenez au 01 45 24 7000.
France Inter. Une soirée, une nuit donc pour fêter la musique, du petit concert en bas de chez vous au grand spectacle en passant par le concert ici à la Maison de la Radio. Toutes les musiques sont à l'honneur. Une initiative née en France en 1982 et qui concerne aujourd'hui une centaine de pays sur la planète. Et c'est aussi l'occasion de lier l'utile à l'agréable sur la scène de l'Opéra de Marseille ce soir. 150 enfants de 7 à 11 ans issus de quartiers populaires. Olivier Martoc a assisté aux dernières répétitions.
Dernière répétition.
C'est les noces de Figaro encore.
Serena, 10 ans, sort de la scène, pas vraiment convaincue par la qualité des enchaînements du ballet.
Faut qu'on soit tous en même temps et c'est dur. Ils sont pas tous difficiles les gestes, faut juste apprendre.
Comme les 150 enfants venus de 6 écoles primaires, elle a suivi des cours de danse, mais aussi d'art lyrique.
Gabrielle Valti, chanteuse lyrique, c'est toujours une gageure de chanter des airs très connus. Ils rentrent dans des personnages qui ont une psychologie intense. Et là, on est émerveillé de voir que les enfants comprennent très bien toutes ces facettes des personnages. Et ils les jouent vocalement, après sur scène, avec le jeu de scène d'artistes.
Ce programme existe depuis 20 ans et les retours sont spectaculaires. Guillaume Schmitt, responsable de l'action culturelle à l'Opéra de Marseille.
Les enseignants sont clairs là-dessus. Il y a de meilleurs résultats scolaires, une meilleure cohésion de groupe, une écoute de l'autre. Et on s'exprime au contact de la musique et de la danse et de la mise en scène.
Le lever de rideau, c'est ce soir à 19h. L'opéra sera comble. 1800 personnes. Spectacle de 3 heures avec entr'acte. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Tout le programme sur fetedelamusique.culture.gouv.fr et sur franceinter.fr, un florilège des pires reprises de l'histoire de la musique.
Il est 7h03, une guerre États-Unis-Iran évitée de justesse hier.
Les médias américains révèlent ce matin que hier, donc, après le tir iranien contre un drone américain, Donald Trump a autorisé des frappes contre plusieurs installations militaires iraniennes. Les avions avaient même décollé avant que le président américain ne fasse machine arrière, sans que l'on sache encore pour quelles raisons. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h avec en direct notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. Hier soir, lors du sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a appelé au calme, estimant, je cite, qu'on ne gagnera rien par l'escalade militaire. Bruxelles, où les 28 chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à se mettre d'accord hier soir sur les nominations aux postes clés de l'Union européenne. Les négociations vont donc se poursuivre jusqu'au 30 juin, date d'un nouveau sommet européen. Louise Baudet.
Ambiance pas vraiment festive hier soir au terme d'un interminable dîner à une exception près.
J'ai noté avec beaucoup d'amusement qu'il est très difficile de me remplacer.
Jean-Claude Juncker affiche la sérénité du sortant, mais pour les autres, tout reste à faire. Aucun des trois candidats déclarés ne parvient à s'imposer, ni le conservateur Manfred Weber, ni le social-démocrate Franz Timmermans, ni la centriste Margrethe Vestager. Les favoris sont sortis, tranche Emmanuel Macron, qui, sans surprise, positive.
Cette étape était nécessaire, compte tenu du niveau de crispation qui avait été atteint. en raison de cette obsession, en quelque sorte, d'une organisation partidaire qui ne correspondait pas à la réalité démocratique européenne.
Façon de renvoyer le Parlement dans ses 22, lui qui voulait imposer à la tête de la commission le chef de file du parti arrivé en tête aux élections. Manfred Weber est donc écarté, mais le casse-tête du casting reste entier et les tractations vont continuer la semaine prochaine à Osaka en marge du G20, puis lors d'un nouveau sommet à Bruxelles le 30 juin. Tractations somme toute classiques pour un Allemand, Belge ou Néerlandais, familier de la culture parlementaire et des coalitions, mais cuisine politicienne mal vécue en France où le mercato européen ne doit pas trop traîner au risque d'illustrer l'incapacité européenne à trancher. Bruxelles, Louise Baudet, France Inter.
Échec aussi des négociations sur l'objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050, projet soutenu par la France et l'Allemagne, mais rejeté par la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Nouvelle manifestation ce matin dans les rues de Hong Kong. Des centaines de manifestants bloquent l'artère principale qui mène au Parlement local. Ils exigent la démission de la chef du gouvernement et le retrait définitif du projet autorisant les extradition vers la Chine.
France Inter 7h06. Quand travailler trop, Agnès, augmente le risque d'accident vasculaire cérébral.
Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os, chantait Henri Salvador. Une étude publiée par l'APHP et l'INSERM confirme l'adage. Les salariés qui travaillent régulièrement plus de 10 heures par jour ont 30% de risque de plus de subir un AVC. Explication signée Lisa Guyenne.
Avec 140 000 participants suivis pendant plusieurs années, cette étude établit clairement un lien entre travail prolongé et risque d'AVC. Le professeur Alexis Descata est médecin du travail. Il a dirigé les recherches.
Globalement, on augmente de 29% le risque. Et si on s'intéresse à ceux qui ont un travail prolongé plus de 10 ans, on voit que ce risque se majore à 45%.
Il n'y a pas de profil type. Tous les travailleurs peuvent être concernés.
Ça peut être les secteurs de la santé. Ça peut être des secteurs du transport. Des gens qui travaillent un petit peu en flux tendu, des ouvriers. Donc ça, finalement, ça va toucher un grand nombre de personnes.
Quant aux raisons qui pourraient expliquer cette augmentation du risque d'AVC, les chercheurs ont formulé des hypothèses. Il y a le stress au travail, l'immobilité ou encore les heures de nuit qui affectent notre système cardiovasculaire. Le travail prolongé aurait aussi des effets indirects selon le professeur.
On va faire moins d'exercice, manger peut-être de manière plus aléatoire, moins s'hydrater, fumer plus et donc finalement avoir un mécanisme indirect des effets du travail.
L'étude doit encore être complétée, mais ses résultats pourront servir à renforcer la prévention en matière de santé au travail.
J'ai les nerfs, la colère et la tristesse de Laurent Berger ce matin dans les colonnes de Libération après les annonces du gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage. Un système qui va accroître la pauvreté, affirme le secrétaire général de la CFDT, qui dit avoir la boule au ventre depuis mardi. La réforme se fait sur le dos des chômeurs. Un rassemblement est prévu mardi prochain devant le ministère du Travail. Un projet commun pour relancer l'alliance Renault-Nissan avec un troisième partenaire, Google. C'est l'accord que s'apprête à signer le constructeur français pour concevoir la voiture autonome de demain, des robotaxis qui pourraient vous amener d'un point A à un point B, sans chauffeur d'ici 2022. Maxime Debs. A fully
self-driving car. Vous asseoir à l'arrière d'une Renault, vous laisser transporter sans aucun chauffeur à l'avant grâce à l'intelligence artificielle de Google. C'est le sens de cet accord aux deux objectifs pour Adiz Ablit, vice-président de l'Alliance en charge du projet.
Un, de mutualiser les coûts et deux, de bénéficier des apports d'expertise de chacun.
Si Renault a déjà pas mal avancé sur le sujet avec son modèle EasyGo présenté l'an dernier, le constructeur peut espérer beaucoup de Google, notamment l'entreprise américaine ayant effectué énormément de tests sur route depuis 10 ans.
Le cadre réglementaire aux États-Unis a permis de faire beaucoup plus d'essais et donc de cumuler des cas d'usage de la voiture autonome plus nombreux. Donc toute cette connaissance cumulée, on pourra en bénéficier beaucoup plus rapidement que de refaire tous les essais ici et puis de les financer.
Car tout ça n'est pas donné. Un cabinet d'experts évalue à 2000 milliards de dollars la somme nécessaire au développement des véhicules sans conducteur d'ici 2035. Montant exponentiel qui a déjà poussé le président de PSA, Carlos Tavares, à revoir ses priorités en mars dernier. Pour son concurrent Renault, l'annonce tombe en revanche à point nommé, Nissan étant signataire du projet, preuve que les deux partenaires peuvent encore travailler ensemble en bonne intelligence. This is where we're going.
Et effectivement, les relations sont en train de s'apaiser. Renault votera finalement en faveur de la nouvelle gouvernance de Nissan après avoir obtenu un siège supplémentaire dans les comités de direction du constructeur japonais. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux femmes tuées, la patrie indifférente. 70 femmes se sont allongées hier soir comme mortes, place du Panthéon à Paris. Hommage aux femmes tuées par leurs conjoints et ex-conjoints depuis le début de l'année. Une initiative d'association qui dénonce l'inertie du gouvernement, car porter plainte est le début d'un long chemin pour les femmes victimes de violences conjugales. Julie Pietri a ainsi rencontré hier soir l'une d'entre elles qui a accepté de témoigner anonymement.
Elle dit qu'elle aurait pu mourir 10 fois. Elle dit aussi que ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines, mais de la douleur. Elle dit, et c'est beaucoup, parce que Dodo, 45 ans, s'est longtemps tue. Après 7 ans de viol et violence, elle a porté plainte en novembre dernier contre son ex-conjoint.
J'ai 2 garçons. Première fois que ça a commencé, le plus petit devait avoir 18 mois. Premier coup de poing, ouais, j'ai compris que les choses allaient être différentes. Mais je voulais pas partir. Parce que j'étais chez moi aussi, c'était pas à moi de partir, j'ai rien fait. Donc j'ai subi, jusqu'à ce qu'il lève la main sur le plus grand.
Dodo finit par partir, confie son plus grand garçon, issu d'une première union, et obtient la garde du plus petit.
Il a jamais accepté. N'importe quel moment, il pouvait être là, devant chez moi, à l'école, dans la rue, on sait pas. Jusqu'à ce que je perde pied, en fait.
Elle tente de se suicider, est hospitalisée, et perd un peu plus tard la garde de son plus jeune fils.
Ils ont estimé que psychologiquement, j'étais faible.
Vous avez porté plainte.
Ça n'a rien changé. Je survis. J'ai pas de domicile. Que le gouvernement fasse vraiment son travail. Parce que quand une fois qu'on a porté plainte, on a besoin de vrais centres et de mesures de protection, un endroit où on puisse vraiment déposer ses bagages et se dire « là, je suis à l'abri ».
Aujourd'hui, quand elle se déplace, cette femme porte une casquette enfoncée sur la tête et des lunettes de soleil. C'est ma tenue de tous les jours, explique-t-elle. Pour l'instant, plus je me cache et mieux je me porte.
Reportage de Julie Pietri. Nous vous parlions hier matin de ce jeune basketteur français, Sekou Doumbouya, parti à l'assaut du championnat de NBA. Eh bien, l'ailier de Limoges a été choisi par le club de Détroit pour jouer la saison prochaine outre-Atlantique.
Et ce sera donc le Brésil.
Le Brésil, oui, pour affronter la France en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine de foot. Une équipe du Brésil moins fringante que par le passé, mais portée par des joueuses stars d'expérience. Et c'est déjà un obstacle de taille, Jérôme sur la route des Bleus.
Avant d'arriver en France, le Brésil restait sur une série de 9 défaites d'affilée. Ses premiers matchs dans ce mondial n'ont pas totalement rassuré. Victoire contre la Jamaïque et contre l'Italie, mais défaite face à l'Australie. Et pourtant, la Seleção, qui a connu son âge d'or en 2007 avec une place en finale du mondial, reste un bastion du foot au féminin. Comme chez les hommes, l'équipe a ses stars. L'inusable Formiga, fourmi en portugais, qui a 41 ans, défie les lois physiques. La milieu de terrain dispute sa 7e Coupe du Monde. Elle n'a manqué que la première en 1991. L'autre étoile du Brésil, c'est Marta, qui a inscrit contre l'Italie mardi soir son 17e but en Coupe du Monde, record absolu, hommes et femmes confondus. La joueuse d'Orlando aux États-Unis, élue 6 fois meilleure footballeuse de la planète, est entrée dans le panthéon du foot brésilien dans le fameux Maracana à Rio. Un stade pourrait même porter son nom au Brésil à la place de celui de Pelé, un choix qui provoque un vif débat dans le pays.
France-Brésil, ce sera donc dimanche à 21h au Havre.
Merci Agnès Soubiran. Premier point route avec Marion Bargiaki.
Point route avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr.
Marion, prudence si vous conduisez sur l'A1.
Oui, 3 accidents à vous signaler dans le département du Nord. Tout d'abord à hauteur de Ronchin, un accrochage entre 3 véhicules vers Lille. 2 voies sur 5 sont neutralisées. Un accident similaire vient d'avoir lieu dans le Pas-de-Calais à Libercourt. La voie de gauche est neutralisée et comptez 10 km de ralentissement en amont. Enfin, une autre collision entre 2 voitures, toujours sur l'A1 mais vers Paris cette fois, à Conchy-les-Pots dans l'Oise.